Bezrat Hashem, nous allons aujourd'hui développer une facette de la paracha de Vayetse. C'est une paracha qui est très riche et qui en réalité résume tous les exils futurs du peuple d'Israël. À travers le personnage Yaakov, qui est en réalité notre père, la sortie de Yaakov en exil, c'est la sortie future du peuple d'Israël en exil. Autrement dit, la paracha vient nous enseigner les halachot de l'exil et les halichot de l'exil. En français, la manière de vivre en exil et comment se comporter même au niveau de la halacha dans un degré donc qui est en dehors de mon identité. Il faut essayer de comprendre aussi pourquoi cette sortie, pourquoi Yaakov descend, pourquoi il quitte, pourquoi il doit quitter la terre d'Israël et comment ça se répercute sur toutes les générations, puisque j'emploie en réalité ici, j'utilise ici le dire de nos sages, Ma'ase Avot Siman Labanim. Donc, si les actions de nos pères sont une balise, un signe pour les enfants, ça veut dire que les enfants vont subir en fait ce que les pères de la nation d'Israël ont subi dans leur petite personne, entre guillemets, qui n'en était pas une, puisqu'ils étaient représentants de la nation d'Israël. Mais lorsque la Torah nous raconte cette histoire, ça se passe pour un individu, apparemment. Ce que nous savons, c'est que cet individu contient en lui, en potentiel, toute la nation. Donc ce qui se passe chez lui, okay, en microcosme, va se passer dans le macrocosme, et en réalité, ça a des répercussions sur toutes les générations à venir jusqu'à l'avènement messianique. Tout ceci est tissé dans les parchiotes que nous sommes en train de lire maintenant dans la Torah. Il ne s'agit donc surtout pas de lire la paracha comme un livre d'histoire appartenant au passé, mais comme une indication concernant notre présent continue, c'est-à-dire notre présent, notre futur et l'enseignement que nous prenons de ce passé. Alors, on va avancer ensemble et on va essayer de voir certaines choses ensemble. Te'ur yetziato shel Yaakov me'eretz Yisrael beparashatenu. Le récit donc de la sortie de Yaakov de la terre d'Israël dans notre paracha. Mehaveh shoresh le kol hagaluyot shel am Yisrael bemeshech ha'historia. Représente en fait une racine pour tous les exils du peuple d'Israël durant son histoire. Yeridat Yaakov min ha'aretz kshura le ta'anato shel Esav, et cette descente, puisque Eretz Israël est au niveau élevé, pas territorialement parlant, mais au niveau de ce qu'elle représente. Le mot élevé ici, alia, quelqu'un qui fait son alia, c'est parce qu'il atteint en réalité une autre vision de la même vie. C'est-à-dire, il voit la même vie avec d'autres yeux. Quelque chose de plus haut. Et donc, il est censé voir et comprendre les choses avec un autre œil. En réalité, on monte pas d'un œil à un autre œil, mais d'une oreille à un œil. C'est-à-dire qu'en exil, nous étions capables d'entendre, sous-entendu de comprendre, j'entends bien, et en Eretz Israël, on est capable aussi de voir. Et ça, c'est de plus loin. Je peux entendre de quelques dizaines de mètres, peut-être de 100, 200 mètres, si c'est dans un désert ouvert, mais je peux voir à des kilomètres. Donc moralité, la vision représente une capacité d'entrevoir, de prévoir et d'avoir une vision profonde des événements que nous sommes en train de vivre. Et donc Yaakov descend, chemin inverse, Pourquoi? Les ta'anato chez les Esav qui zéganav mimeno et abrachot. Parce que nous avons affaire à un Esav qui est son frère, jumeau, très dangereux. Nous avons affaire ici donc entre le bien et le mal, et on ne sait pas très bien, en tout cas de l'extérieur, où est le bien, où est le mal. Mais entre guillemets, ce Esav-là veut tuer Yaakov et il le dit. Il le dit à qui? À lui-même, à personne. Vayomer Esav Belibo. Et en réalité, l'Occident joue le même jeu. Simaase Avot Siman Labanim pour Israël. Mais c'est exactement pareil pour les nations du monde. C'est-à-dire leur père à ces nations, c'est Esav. Les nations du monde se disent à chaque instant, dès qu'elles peuvent, dès que papa n'est plus de ce monde, je m'occupe d'Israël. C'est en réalité ce que Esav dit, alors que papa est vivant. Et il parle déjà de la fin du deuil de son père durant la vie de son père. C'est-à-dire que papa Yitzhak est vivant, et Esav se dit dans son cœur, dès que je l'enterre à lui, Yitzhak, papa, et que le deuil finit, je vais m'occuper, je vais tuer Yaakov. C'est ce que les nations du monde font, et c'est pour ça que la Gemara nous dit que les nations du monde ressemblent l'Occident à un cochon qui montre ses pattes parce qu'il a le sabot fondu, et comme il a le sabot fondu, on a l'impression que c'est une bête. Voilà sa patte, donc elle est cachère, mais en réalité, comme il ne rumine pas, eh bien en réalité, il n'est pas cachère. Donc il montre ses pattes, il se dit, moi je suis propre. Ponce Pilate. Bien, je montre mes mains, les mains sont propres. Moralité, Esav pense tuer Yaakov parce que on lui a volé les bénédictions, donc il a condamné son frère à mort. Esav condamne Israël à mort. Toujours. Même si ce n'est pas lui qui le tue, il va envoyer quelqu'un d'autre. En l'occurrence, son fils ou bien Ishmaël. C'est plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je traduis les événements, c'est l'Occident qui envoie Ishmaël pour s'occuper d'Israël. Et quand tu dis à l'Occident, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, nous, on est propre. Matzdik Esav, c'est de cette manière-là que Esav, quel Matzdik, justifie, et retsono lirtsoach et Yaakov, sa volonté de tuer son frère Yaakov. D'ailleurs, même Lavan, gam Lavan romez le Yaakov ki ma'asav matzdikim et redifato. Lavan, qui en réalité de la famille de Abraham. Ça veut dire que Lavan et toute la famille qui se trouve là-bas, c'est quoi? En réalité, c'est la moitié de votre famille, celle qui habite encore en Khoul. Abraham, lui, habite en Eretz Israël, c'est celui qui a fait son alia. Je vous rappelle qu'ils étaient trois. L'un a décidé de rester à New York ou à Paris. Un a été tué où? Dans les fours crématoires de Our Kasdim. C'est bizarre, hein? Et le troisième, seul, un tiers, est monté en Eretz Israël. Maase Avot, Siman Labanim. Un tiers de notre peuple a fini dans les fours. L'autre est resté en exil. Et le dernier tiers est monté en Eretz Israël. Yaakov, maintenant, c'est l'Israélien. Que fait-il? Eh bien, il y a des problèmes ici. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de partir vers la moitié de la famille qui se trouve là-bas. Quand Lavan voit Yaakov arriver, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, t'as raté ton alia, hein? Tu vois bien que c'est ici que ça marche, les affaires. T'arrives même pas à te trouver une femme là-bas, t'étais obligé de venir ici. Reste avec nous. Mais ici, je vais te faire bosser, tu vas voir, tu vas réussir ta vie, c'est super, ici, tout est blanc, la vanne. Moralité. Qu'est-ce qu'il lui dit Lavan à Yaakov, d'une manière allusive mais piquante? Lo yaase ken bimkomenu. Tu sais, ici, on ne fait pas comme chez vous là-bas. La tête hatseira lifne habbechira. On peut pas donner la plus jeune avant de donner la grande, l'aînée. Sous-entendu, comme toi, tu as fait, parce que tu as en réalité changé l'ordre des choses. Yaakov menace les chanot et taïvout chez Itri ben Kain Vevel. Et Yaakov, en réalité, sa descente en exil, l'une des raisons pour cette descente, c'est de changer le contexte et la manière d'être qui a commencé avec Cain et Hevel. Cain et Hevel, Cain c'était l'aîné. Hevel c'était le second. Cain a tué Hevel. Pourquoi? Il avait peur que Hevel prenne sa place. Autrement dit, dans l'histoire, le second est un petit peu plus fort au niveau des actions de sa vie que le premier. Je ne vais pas rentrer dans la facette psychologique, mais en réalité, le premier a tellement de responsabilités que les parents ont rêvé durant toute leur vie qu'ils mettent sur le premier, le pauvre. Donc il est toujours un tout petit peu plus petit de taille que le second, parce qu'on l'écrase. Parce qu'on lui met tellement de choses sur la tête qu'il se dit, mais je ne peux pas, moi, réaliser tout ce qu'on attend de moi, lâche-moi. Et lorsque le second arrive, ça met le premier en danger. Et comme il est en danger, il ne veut pas le second. Parce qu'en réalité, le second, lui, qui est beaucoup plus libre de ses actions, se sent un tout petit peu plus actif. Et donc, il peut arriver à des degrés que le premier, par trop de tension, n'arrive pas. Donc, le premier dit « Anilo rotseach ». Je ne veux pas de frère. Lo rotseach. Vous comprenez? Ça veut dire tuer, meurtrier, c'est tout simplement lo rotseach. Je ne veux pas. Donc, comme je ne veux pas lo rotseach, alors je suis obligé de tuer. Moralité. Le second est toujours un danger pour le premier. Mais Yaakov vient soigner, guérir cette maladie qui va être guérie, cette maladie. C'est les enfants d'Israël qui ont guéri cette maladie, sinon elle aurait été encore d'actualité. C'est le second qui va donner une impulsion aux choses et que le premier va accepter. Un des exemples, Moshe et Aaron. Lorsque Aaron, la Torah, précise quelque chose que Aaron n'a pas dit, mais que nous savons parce que le texte narratif nous raconte, Vaismach Aaron Belibo. Ça veut dire qu'Aaron était heureux de voir que son frère, plus petit que lui, réussit, entre guillemets, plus que lui. C'est-à-dire qu'il y a une correction dans l'histoire de ce degré, mais c'est encore un cours à part entière. Il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici une correction que Yaakov est en train de vouloir faire entre Cain et Hevel. Rappelez-vous que Cain et Hevel sont en réalité, c'est comme si vous aviez une bougie. Alors la bougie, elle attend, elle se dit, moi, bon, c'est sympa, on m'a acheté, mais tant que je n'ai pas de flamme, c'est comme si je ne servais à rien. Mais en réalité, la flamme, c'est un tout petit truc de rien du tout qui vient et qui change complètement la bougie qui, elle, prend de la place quand même. Moralité, quand on n'a que des bougies, hein? Combien de bougies on peut avoir dans ce monde? 7, c'est le chiffre des bougies, ce monde, puisque ce monde est basé sur le chiffre 7. Donc nous avons en réalité un monde à 7 bougies. Donc comment on appelle ces degrés en hébreu? Kanim. Kanim. Kané. Et La flamme s'appelle Lehava. Donc nous avons Caïn et Hevel. Moralité, les branches qui sont là, qui sont fortes, elles se font dépasser en un instant par le feu. Plus personne ne regarde les branches. Dès que le feu est allumé, tout le monde voit les flammes. Ça attire l'œil. Moralité, le frère aîné qui est Caïn Cané, il se dit, mais attends, c'est moi le support de tout ça, personne ne fait attention à moi. Donc il se lève pour tuer la Lehava. Moralité, le corps veut tuer l'esprit. Alors que dans un monde profond, l'esprit lui aussi n'était pas très sympathique. Parce que le Midrash nous dit que Hevel voulait tuer Caïn. C'est-à-dire que Hevel, c'était l'esprit qui voulait tuer le corps. Et tant qu'ils n'ont pas compris ces deux, qu'ils doivent vivre ensemble et que l'un a besoin de l'autre, pas moins que l'autre a besoin de lui, ça ne pourra jamais marcher. Donc nous devons faire la paix entre Caïn et Hevel. Et c'est ce que Yaakov essaye de faire maintenant. Les nations représentent notre corps. Donc nous devons éclairer ce corps. Nous sommes la flamme qui doit éclairer ce corps. C'est pour ça que les nations ne supportent pas. C'est ça. Qui veut tuer Yaakov. C'est le même couple à une autre génération. C'est-à-dire que notre Torah avance toujours par couple. Et c'est toujours ces deux degrés. D'ailleurs, tenez-vous bien, ça existe aussi dans le couple. C'est-à-dire, le couple, c'est exactement pareil. L'homme et la femme cherchaient où se trouve l'un, où se trouve l'autre. Et en réalité, tantôt l'un veut tuer l'autre, ou l'étouffer, et tantôt c'est l'autre qui veut tuer l'un. À tel point que quand vous allez dans des cours, on vous dit, l'homme et la femme égale un. C'est-à-dire qu'il y a un qui est mort. Et pourquoi il arrive à vouloir tuer son frère? Eh bien, tout simplement parce qu'il est dans une nechitut moussari. Traduction, un complexe d'infériorité. Richei nechitut en hébreu. D'accord? C'est la même chose. Ishmael, c'est encore plus primitif. Quel? Nechitut moussari. Tacherovil aliyachat mafleel achatsaïr. Et donc, moralité, à chaque fois, on se dit, mais attends, le deuxième frère ne va pas me dépasser quand même. Tu n'arrives pas à comprendre qu'en réalité, il y a ici un équilibre à retrouver qui est entre Caïn et Hevel. Mais on laisse et on avance. Derech Yosef HaTzadik, le fils de Yaakov, Yosef, eh bien, à travers lui, Poteach Yaakov Avinu Idan Chadash Benoseh Shel Bechora. C'est Yosef en réalité qui va corriger réellement le droit d'aînesse. Cet équilibre très très fragile. Comment on voit ça chez Yosef? Il est tout le temps en train de s'occuper de Binyamin. C'est-à-dire que même si Binyamin est là, donc encore une fois c'est le même couple dans une autre génération, eh bien Yosef se préoccupe sans arrêt de son frère Binyamin qui représente dans notre schéma les branches.
C'est pas la mère.
Ça, c'est, il y a toujours une raison pourquoi. Yes? Mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, Binyamin représente en fait les branches de la menorah. Yosef représente les Hava. D'ailleurs, les sages dans plein de Midrashim nous disent que Yosef est une flamme qui brûle toute la paille de Esav, à tel point que Esav a peur. Il a un Satan, Esav. Il s'appelle Yosef. C'est-à-dire que Yosef, c'est le Satan de Esav. Autrement dit, pour faire peur à Esav, il faut un Yosef. C'est ce qui lui fait le plus peur au monde. Bizarre. Yosef, 80 plus 60 plus 6 plus 10. 156. La même valeur numérique que Sion. Le sionisme fait peur le plus aux nations du monde. Donc leur antisémitisme s'est transformé en anti-sionisme. Et je vais vous le prouver. Quand est-ce que Lavan et toute sa bande là-bas ont peur de Yaakov, le jour où il décide de revenir en terre d'Israël? Et quand est-ce qu'il décide de revenir en terre d'Israël, ce Yaakov? Le jour même où Yosef est né. C'est-à-dire que Yaakov a, de ses propres mains, créé le sionisme, c'est-à-dire la Histadrut sioniste. Et dès que celle-ci est créée, c'est la fin du monde, ils deviennent fous. Hein? Et les sages de nous dire, tu ne peux pas sortir, Yaakov, de l'exil dans lequel tu te trouves, si ce n'est que avec l'autorisation de Lavan. De la même manière que les enfants d'Israël en Égypte n'ont pas le droit de sortir d'Égypte sans l'autorisation de Paro. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'obstine à demander à Moshe, va lui demander. Quelqu'un qui ne connaît pas cette règle se dit, mais Kadosh Baruch Hu est plus faible que Paro, il faut lui demander l'autorisation. C'est une règle, Rabotai. Tant que le maître des lieux n'a pas donné l'autorisation aux juifs de l'endroit de quitter cet endroit, les juifs ne peuvent pas monter. C'est une règle. Et s'ils montent, malgré tout, ils ne récupèrent pas avec eux les étincelles divines qu'ils étaient censés récupérer. C'est une règle. Moralité, quand on est monté en 1948, on a eu l'autorisation des Nations Unies. Ça veut dire que nous sommes réellement selon les dires de nos sages dans la Gemara. Hier, je donnais un cours et j'avais une vieille dame qui est une rabbinite qui me racontait que sa mère était dans la salle quand on a voté. Et elle me racontait qu'en réalité, la mère lui disait à cette fille, qui a aujourd'hui 90 ans, serait-ce la madame, qu'elle, elle lui disait, mais tu ne te rends pas compte les miracles qu'il y a eu pendant ce vote. L'un d'entre eux, comme ça juste au passage, de ceux qui devaient voter s'est endormi. Et il voulait voter contre l'État d'Israël. Et au moment du vote, son copain lui a donné un coup de coude et il s'est réveillé, il a dit, cop, il a voté. Pour. C'est-à-dire, il s'est trompé. Des choses inimaginables. Okay? Yosef, Hua Bechora Mushlam. Yosef, c'est l'aîné parfait, par définition. Pourquoi? C'est le premier-né de sa maman, Rachel. Hamazmin Kvar Beleidato, et comment je vois qu'il est le correcteur de tout ce danger entre le premier-né et le deuxième, c'est qu'au moment de sa naissance, il invite déjà le prochain. C'est pour ça qu'il s'appelle Yosef. Et sa maman, en l'accouchant, Rachel, qu'est-ce qu'elle dit? Yosef li Hachem ben Acher. Si Dieu veut, j'aurai un autre. Ça veut dire que le nom de Yosef, c'est déjà associé au prochain qui va venir. Non seulement je n'ai pas peur de mon petit frère, mais c'est moi qui l'invite. Extraordinaire. Ça veut dire que le nom de Yosef, donc, est au futur. Yosef. C'est l'homme motif. Yosef. Ça veut dire qu'en réalité, Yosef est déjà dans le lendemain, c'est-à-dire dans le prochain, c'est-à-dire dans le frère, dans le petit frère que je vais maintenant respecter pour ne pas que Caïn tue Hevel, ni que Hevel tue Caïn. Vatikra et Shmo Yosef, les morts, c'est pour ça qu'elle dit, la maman, Yosef, Hashem li ben Acher. Bacher alken, berega leidato shel Yosef, ce qui veut dire qu'au moment même de la naissance de Yosef, Machlit Yaakov leitmoded im kocho shel Esav velashuv le'eret Israël. Yaakov comprend, le papa, que le moment est venu maintenant de revenir parce qu'en réalité je suis sorti en exil pour corriger quelque chose, pour récupérer quelque chose qui est tombé parce que malheureusement il y a eu des fêtes dans les années premières de l'histoire. Bien fait. Cette correction ne se fait pas seulement par Yosef. Yosef est en réalité le révélateur de toute une correction. La racine du mot Yosef, c'est pas seulement Léosif, mais l'Esof, rassembler. Ça veut dire que dans le mot Yosef, il y a déjà une Asefa. Il y a un rassemblement. Ce que Yaakov va vouloir révéler la fin des temps juste avant de mourir, et il dit à ses enfants, « He'asfou !» Autrement dit, vous voulez savoir qu'il y aura au temps messianique, je vous donne déjà la clé. Et après, il ne dit plus. Le Zohar nous dit, vous n'avez rien compris. Il a déjà tout dit. Et asfou, c'est ça la clé. Quand vous allez vous rassembler, c'est le temps messianique. Il n'y a plus rien à dire, c'est plus la peine de parler. Toi, tu attends que Yaakov dise encore quelque chose qui nous dit, bon, rassemblez-vous, je vais vous raconter une histoire. Alors, une fois qu'ils sont rassemblés, ils commencent à raconter d'autres choses. Non ! Le fait que tu sois rassemblé, c'est déjà la fin de l'histoire. Je t'ai déjà raconté l'histoire. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit. C'est la clé, en réalité, du messianisme. Ce que nous sommes en train de réaliser maintenant, puisque tous nos juifs sont en train de revenir à la maison. Ok ? Mais Ezrat Hashem. El Asheri Bouy Isouka Shel Parashat Tenu. Maintenant, je vais rentrer dans un sujet qui est apparemment anodin. Mais moi, j'ai une règle. Si la Torah s'en occupe tellement, c'est que c'est pas si anodin que ça. Alors, de quoi la Torah s'occupe, qui apparemment ne nous intéresse pas du tout, mais en tout cas, pas vraiment? Eh bien, des brebis et des agneaux de Yaakov. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais vous voyez le nombre de versets? Ça veut dire qu'en réalité, les brebis, les agneaux de Yaakov, le Zohar nous raconte, ce sont toutes les étincelles du peuple d'Israël qui sont tombées en exil, et maintenant elles sont rassemblées dans ces brebis-là. Ce sont les brebis égarées. Ce sont toutes les étincelles des Neshamos qui sont sorties du premier homme et que Yaakov est allé récupérer là-bas. Moralité, quand la Torah me parle de ces brebis, c'est tout simplement une allusion. Et il faut que tu saches lire entre les lignes. Puisque le peuple d'Israël s'appelle Tson Maraiti. Exactement la même terme, les mêmes thèmes Tson. C'est-à-dire les brebis, les troupeaux.
Pourquoi Yaakov était obligé de descendre de Eretz Israël contre la Rex pour corriger ce Caïn et Evel?
Quand une étape supérieure faillit, elle tombe en dehors du Kodesh. Et en dehors du Kodesh, c'est Chutz La'aretz. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous, je vais vous faire un petit peu peur, à chaque fois que vous fautez, à chaque fois qu'on faute, notre faute ne reste pas chez nous. Elle sort et elle va dans un domaine qui n'est plus le mien, qui est dangereux, et pour le récupérer, je suis obligé maintenant de rentrer dans la poubelle et aller récupérer ce que j'ai perdu là-bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faute, on passe par un processus d'exil pour aller récupérer notre faute. Et cette descente en exil, ne serait-ce que pour corriger ma propre faute, ça me met en danger de quoi ? De prendre goût à la poubelle. Parce que la poubelle n'est pas si poubelle que ça, apparemment. Elle est très belle. On enlève le pou, il reste belle. Et c'est ça le problème. C'est comme en Égypte. Vous croyez qu'en Égypte, c'est ce que vous avez eu l'habitude de voir dans les films de Moïse et des 10 commandements et tous ces trucs-là, où les enfants d'Israël sont dans l'esclavage et on les frappe avec des... Le Zohar nous dit pas du tout. Vayavidu Mitzrayim et Israël befarech. Pas de befarech. Bepe rach, avec une bouche tellement mielleuse. Bepe rach, ce sont des fleurs. Vous croyez que l'exil est dangereux? Demandez à ceux qui vivent à San Diego. Ils se disent, mais attends, mais on est en train de kiffer notre life. On est en train de faire les magasins, il y a le Black Friday. On a des promotions, vous en Israël, vous sautez dans des bus, nous on est tranquille. L'exil attire, rabotaille. Je vais même vous raconter un secret qui vous concerne tous ici. pratiquement, chacun de vous a eu un jour l'idée de se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Je préfère aller là-bas me reposer, peut-être.
Non,
moi pas. Hein? Bah, Hashem. C'est bien. Mais en réalité, c'est alléchant, c'est attirant. C'est attirant. Vous savez, au niveau psychologique, ceux qui ont crié non, 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 pas du tout, okay? Il y a eu une majorité qui était dans le silence. Vous n'avez entendu que 3 ou 4, hein? Mais bon, passons.
La galoute, c'est la galette.
Okay. Mais vers la Ouvda, ça veut dire qu'en réalité, c'est à l'échange, je suis obligé de descendre, c'était pour sa réponse. Alors, au-delà du fait que les brebis, que les agneaux, que tous ces troupeaux représentent la richesse, c'est-à-dire aujourd'hui, ce sont des bagnoles. Il avait un garage. Et il vendait des... Je ne sais pas, moi. Des brebis, c'était des Porsche de l'époque, j'en sais rien, moi. Au-delà de ce degré, Yaakov avinu me'asher et divrei hanevoa kovad v'achrechem yesu birchush gadol. Non seulement il faut réaliser la prophétie qui dit que vous sortirez de l'exil avec de la richesse. Quelle est la richesse avec laquelle on sort de l'exil? Bien, tout ce que vous avez ramené de France. Tout ce que vous avez appris. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles que vous avez... Pas volées. Vous avez aimanté. Puisque, je vais vous donner le secret... Les étincelles de lumière qui sont tombées en exil, eh bien, elles s'aimantent, elles se rapprochent de qui? De celui qui ressemble à leur qualité. Or, pour faire coller, adhérer cette étincelle, il faut qu'un juif descende et cette étincelle se colle à lui. Donc, quand vous étiez en exil, pendant toutes les années de l'exil, des étincelles sont collées à vous malgré vous. Parce que vous avez de la même qualité que ces étincelles. Et une fois que vous êtes monté en Eretz Israël, il y en avait plein les valises.
Le corps.
Qu'est-ce? C'est une expression.
Est-ce que c'est vrai que, en gros, on a vécu, il reste toujours des étincelles?
Alors, encore une fois, quand vous êtes sorti de là-bas, pas du tout. Comme il s'est passé en Égypte. Encore une fois, Maaseh Avot, Siman, Labanim. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, comment elle est devenue l'Égypte? Kemetsuda she'en badagan, kemetsula she'en badagim. Comme un aquarium sans poisson. C'est-à-dire on a tout vidé. C'est pour ça que les nations sentent intuitivement que lorsque les Juifs sont en train de quitter un pays, ce pays est au bord de la faillite. Et on lui dit, fais encore un pas en avant.
Dans les pays arabes, le Maroc
qui redemande de ses juifs. Tout le monde, l'Espagne, de partout, aujourd'hui c'est l'Espagne, ils vous offrent ce que vous voulez pour que vous repartiez en Espagne. Donc d'après la Kabbalah, Akvasim shel Yaakov, les brebis, tous les troupeaux de Yaakov, Emremel, ce sont en réalité que des allusions. Les nitsotsotakod, ce sont des étincelles de sainteté. Shenaflu ben ha'amim betarbutoyehem ha'shonot. Ce sont des étincelles des âmes qui sont tombées dans des influences étrangères à nous. Alors tu vois un petit juif maintenant à Paris, tu lui dis mais ton identité elle est ici. Il te dit non, moi mon identité c'est de parler en français, c'est de machin. Il a oublié le pauvre. Mais il en est rempli de ces étincelles. Il faut, en réalité, les activer. Et l'activation de ces étincelles ne se fait que sur la terre d'Israël. Parce que activer, tenez-vous bien, ce n'est pas devenir religieux. Activer, c'est venir jouer le rôle de la nation que nous sommes. Pas des religions que nous étions. En exil, on était des religieux. Mais on n'avait aucun rapport avec la nation. Ce qui nous occupait, c'était naissance, Brit Mila, enterrement. C'est tout. Bar mitzvah, mariage, enterrement. C'est tout. Voilà la religion. On est tombé dans des degrés de religieux. Alors que l'État, la nation, Ha'uma, Ha'israélite, c'est fini. Il n'y avait pas de monnaie qui nous appartenait. Il n'y avait pas une armée qui nous appartenait. Il n'y a rien.
On était dans le vent.
Et pire encore, tu vas servir l'autre nation parce que tu vas être soldat qui fait des guerres qui n'ont aucun rapport avec ce que tu dois être. Et on va te mettre des barrettes et des machins. Mais même là-dedans, comment on a monté ça? Par tous les aviateurs qui étaient en Angleterre. On a monté l'armée de l'air d'Israël. Vous comprenez? Ça veut dire que toutes les étincelles reviennent et c'est avec ça qu'on construit cet État. Agalut no adal el haket nishmot Israël. Donc l'exil, il a un rôle. C'est de récupérer en réalité toutes ces neshamot d'Israël, shenil kedou bagalut, qui ont été faites prisonnières en exil. Ou les hashivan el gvul kodesh, pour les faire revenir dans les frontières du Kodesh. Faut qu'on prie pour ne pas qu'il y ait encore un seul enfant d'Israël en dehors de ces frontières.
Et c'était quoi alors les 4-5e d'Égypte?
C'était pas encore Israël. Ils ont décidé de ne pas être Israël.
La Alia, quand ils ont fait...
Encore une fois.
Il y a eu un cinquième qui est monté.
Un cinquième de qui?
Des Juifs.
Non. Il n'y avait pas de juifs.
Alors,
tu comprends? Ça veut dire que ceux qui ont été définis, pas comme juifs, mais comme Bnei Israël, c'est seulement ceux qui sont sortis.
On peut dire la même chose aujourd'hui.
C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Moi, si je le dis, on me brouille, mais je ne le dis pas. Ça veut dire qu'en réalité, les Bnei Israël, c'est ceux qui font avancer l'histoire. L'histoire a continué avec qui? Avec ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est avec cela qu'Akadosh Baruch Hu continue d'habiller ces événements divins dans le monde humain dans lequel nous sommes. Les autres, on entend du peur, plus peur, c'est fini. Veine, Yeshnam Shlosha Suge Neshamot Beisrael. Maintenant, il faut savoir, j'écris les cours, j'essaye de faire un travail de, comment on dit, Louliane. Un jongleur ou
un
acrobate, quel? Pas comme l'autre, hein? L'autre il bouge pas. Quel? Alors, il y a trois sortes d'âmes dans le peuple d'Israël. Amakbilim, et ces trois sortes d'âmes sont parallèles les Shalosh Trinot Amuskarot Beton Yaakov. Dans les troupeaux de Jacob, il y avait trois sortes de brebis. Les uns s'appelaient Akudim, les autres s'appelaient Nekudim et les troisièmes s'appelaient Broudim. Très bizarre, même un Israélien de base ne comprend rien. Mazé Akudim, Mazé Nekudim, Mazé Broudim. Alors Akudim, Bessed, Rieshlaim, Ksamim. Alors les Akudim, c'est ceux qui avaient des taches. Nekudim, c'est ceux qui avaient des points. Et Broudim, c'était ceux qui étaient en réalité un mélange, ils étaient déjà moirés. Un mélange des couleurs. Alors, il y avait... Ça c'est le pshat. Trois sortes de brebis. C'est-à-dire que Lavan a dit à Yaakov, écoute, tu t'es enrichi de moi-même, il faut qu'on se sépare parce que tu t'enrichis sur mon dos. Yaakov lui dit, il n'y a pas de problème. À partir du moment, de ce moment-là, je ne prendrai que les brebis qui sont ou avec des taches, ou avec des points, ou avec des traits un petit peu mélangés comme ça. Toutes celles qui sont nettes, blanches, magnifiques, tu les prends comme toi, la vanne. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Toutes les chèvres sont devenues comme ça, comme ça ou comme ça. Maintenant, Yaakov a rusé pour arriver à cela. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en réalité, quelle était la ruse? Je suis allé, je parle maintenant comme Yaakov. Moi, je suis venu ici en exil, il faut que je profite. Je ne vais pas rester éternellement. Donc il faut que je récupère le maximum de Neshamot qui sont là-bas. C'est que à cela que doit penser un juif quand il est en exil. Mais quand on lui dit que c'est terminé, il doit aussi revenir. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine prochaine, Shabbat qui vient, Yaakov dit, va echar ad ata, j'ai trop tardé. Moi-même, Yaakov, j'ai déjà tardé. Maase avot siman labanim. Même les enfants vont tarder. On continue. Ces trois sortes de brebis, Geulat Israël mina galut mechayevet tipul beshloshet sugya neshamot. Donc, si je veux que les enfants d'Israël reviennent d'exil, je suis obligé d'aller voir maintenant dans les enfants d'Israël l'une de ces trois catégories qui étaient dans les brebis qui représentent les Neshamot. Vous êtes toujours avec moi. Aniskarim beremes besimanim amofiim batson. Rak kach nishlemet ofat bet Israël. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut reconstruire la maison d'Israël. Moralité, maintenant, en Eretz Israël, dans Medinat Israël, dans laquelle nous sommes maintenant, il y a ces trois sortes de personnages. D'ailleurs, elles sont ici représentatives ici. C'est-à-dire, il y a parmi nous ici des Akoudim, des Nekoudim et des Broudim. Qu'est-ce que ça veut dire? Immédiatement, l'exemple Bezrat Hashem. Vefcher leofieter ki hashamayim al haaretz, c'est seulement comme ça qu'on peut manifester les valeurs célestes sur terre. Prina Aleph. Premier degré. Qu'est-ce que c'est que les Akoudim? C'est qui les Akoudim? Alors vous allez vous reconnaître dans l'un des trois. C'est pas la peine de dire, hein. Remez leotam anashim. En réalité, ça va être une sorte d'homme, de personnage, de femme. She'en mashbera chaim et kalkelim et slam et sargashat ta'osher. Ça veut dire, ils sont heureux. Et peu importe ce qui se passe, ils sont toujours heureux, ils sont toujours bien. Il se passe des choses, il y a des attentats, des machins, ils te disent, non, moi, je suis akoudim. Que veut dire le mot akoud en hébreu?
Attaché.
Attaché. Ça veut dire, je suis tellement attaché aux valeurs de l'infini, qu'il peut se passer n'importe quoi ici, j'ai une seule maladie, je suis optimiste. Premier degré. Deuxième degré. J'ai pas vu de grand sourire. Pas beaucoup se reconnaissent, je sais pas. Prinavet. Deuxième degré. Nekoudim. Nekoudim. Qu'est-ce que c'est que le Nekoudim? Keneged mi shemilchemet akiyum, chez eux, la guerre de chaque jour, gorem et etzlam le pizou en effet, ils n'en peuvent plus, ils sont complètement éparpillés. Veleria fractalit chez la Metsiout. Ils n'arrivent plus à voir la réalité d'une manière entité, ils voient d'une manière fractale, c'est-à-dire découpée en morceaux comme des nekoudim, comme des points. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un point noir, ils ne voient que ça. Vous comprenez? En réalité, ils sont très souvent pessimistes. Très souvent, parce que s'il y a un seul petit degré noir, ça leur gâche toute la journée. Et tout le mois, Chas v'Shalom. Et alors, comment ils voient les choses, ces gens-là? Eh bien, comme des tiroirs. Je me rappelle, à une époque, c'était la mode. Okay? Les Megirot, les tiroirs. Mais voilà. Chesed l'Echout, c'est-à-dire, il y a un tiroir marqué Chesed. C'est un tiroir de Chesed. La bonté est dans un tiroir bien fermé. Din l'Echout. De l'autre côté, il y a le Din. Chomer l'Echout, la matière, ici. Ruach l'Echout, la spiritualité, là-bas. Il n'y a rien qui se mélange chez eux. C'est que des tiroirs. Ils voient tout avec des tiroirs. Un coup on est comme ça, un coup on est comme ça. On n'est même pas capable d'être deux fois, c'est-à-dire les deux choses en même temps. Alors les Nekoudim, c'est très infantile comme système psychologique. Pourquoi? Parce que l'enfant ne peut pas être deux choses en même temps. Anisoneota. Tous les amis disent. Ou je t'aime, ou je te hais. Papa, maintenant, il m'a donné un petit truc, il m'a fait sonner autre. Il ne peut pas comprendre que papa, il lui fait tout en l'aimant. Il n'arrive pas à comprendre les deux choses en même temps. Eh bien, ça ne veut pas dire que ces personnages-là sont petits, sont des gens qui ne valent pas. Au contraire, elles ont des aspirations tellement grandes, ces personnes-là. Et la Sheinan me sougalot bederek la leotien et la poil biglal gishatan en ekudati na mafrida ben kol revadeachim. Elles n'arrivent pas à les réaliser parce qu'elles sont tellement sectorielles qu'en réalité, elles n'arrivent pas à faire les deux choses en même temps. S'il y a un petit truc dans le chemin qui leur gâche le truc, c'est fini. Il y a tout qui est tombé à l'eau. D'accord? Alors que leurs idéaux sont grands. Et justement, parce que leurs idéaux sont tellement grands, qu'ils sont toujours, ou presque toujours en souffrance. Anashim ka'el, nishbarim berucham le'itim krovot. Voilà. Ce sont des gens qui très souvent sont en déprime. Prina Gimel, troisième sorte de personnage. Droudim. De moins en moins, on n'entend plus personne. Les troisièmes, c'est les Broudim. Qu'est-ce que c'est les Broudim? En hébreu moderne, bien fait. En hébreu moderne, Broudim, qui veut dire rose. Qu'est-ce que c'est le rose? Mélange entre le rouge et le blanc. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des patchwork. Ils arrivent à combiner et le rouge guerrier et le blanc chesed. Keneged suga anashim, hayodim lichyot beharmonia. Ils savent vivre en harmonie. Ils savent qu'il y a des problèmes. Derech hasintesa shehem bonim ben kol ha'arachim. Ils font une synthèse entre tout ce qu'on vient de voir maintenant et ils se disent, attends, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais on est en train de construire un état en avant. Regarde où nous sommes aujourd'hui par rapport à il y a 65 ans. Et tatati, tatata, tatata, il fait toute une synthèse, il se dit, écoute, Baruch Hashem, qu'en on avance. Alpi Torah Tassod, selon la Torah de la Kabbalah, Neshamot Ele, ce troisième type de Neshamot, Nikraot Mechunot Beshem Neshamot de Tikkun. Ce sont elles les Neshamot du monde du Tikkun. C'est-à-dire, pour faire partie des Neshamot de Olam HaTikkun, il faut, en réalité, appartenir, parce que ça change dans la vie. C'est pas parce que vous étiez jusqu'à maintenant que comme ça, que c'est fini, vous êtes foutu. Et d'ailleurs, il y a un mélange des trois dans chacun. Mais il y a un qui est prédominant. C'est vrai? Donc, les Neshamot de Tikkun, c'est celle qui arrive à faire une synthèse de tout ça. Je reviens maintenant. Yeridat Yaakov Meretz Israël, Kovat le Dorot et Ilchot Agalut ve Talichotea shel Ha'uma Israelit ba. Donc, moralité, quand le peuple d'Israël est descendu en exil, eh bien, tout ceci s'apprend de qui? De la descente de Yaakov en exil, puisque c'est papa. Tout ce que fait papa vont faire les enfants. C'est-à-dire, il nous a mis dans nos gènes quelque chose qui passe malgré nous. Donc, si je veux comprendre en réalité tous mes exils, je n'ai qu'à étudier Yaakov et sa sortie par Parashat Vayetse. Alors, peu importe si on finit le texte, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas après le texte, parce que le texte, il est toujours plus que ce que le veau veut téter, la vache veut donner. Enfin, moi, c'est moi la vache. Hein. Donc, j'écris toujours plus que ce qu'il faut, mais bon, alors, Okay. Donc, moralité. Comment est-ce que vous auriez appelé la paracha de Vayetse? Selon le texte normal.
L'exil.
C'est vrai que c'est l'exil.
Alia.
Non. Je veux prendre un terme qui aurait été beaucoup plus approprié que Vayetse. Vayered. Pourquoi est-ce que Yaakov descend, quitte la terre d'Israël? Parce que sa mère, Rivka, lui dit que son frère veut le tuer. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Koum, brach! Lève-toi et sauve-toi! Donc la paracha aurait dû être Vaïbrach. Ça, c'est la maman. Mais le papa, Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Il va se marier. Non, l'air. Koum, l'air. Oui, il dit Koum, l'air. Donc on aurait dû appeler cette varacha Vayelech. Si tu écoutes papa, c'est Vayelech. Si tu écoutes maman, c'est Vaïbra. Moralité, Yaakov est coincé entre la peur de se faire tuer et le devoir de fonder une famille. Maase avot siman labanim. Le peuple d'Israël est toujours coincé entre la peur de se faire tuer et la volonté de créer une nation.
C'est plus positif.
Ça veut dire que le terme Vayetse, c'est en réalité une combinaison. Mais Yaakov, qui est-ce qu'il a écouté? Papa ou maman? C'est marqué les deux. C'est marqué dans le texte. Vaishma Yaakov le aviv ou l'imo. Ça veut dire Yaakov a écouté dans l'ordre, son père et sa mère, c'est-à-dire je me suis d'abord fixé un but de créer une nation, et je sais qu'au milieu il y aura des problèmes, donc je vais éviter de mourir. Vous avez compris dans notre vie ce qu'il faut faire? Ça veut dire que si votre vie, c'est seulement vous préoccuper des dangers qui guettent, vous ne pourrez jamais construire quoi que ce soit. Il faut d'abord vous fixer des buts élevés de construire, de fonder la nation d'Israël. Et au milieu, il y aura des perturbations. Mais mon but est tellement grand que j'avance. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais si je n'ai pas de but, et mon seul but c'est de me sauver d'eux, jamais d'aller vers, mais toute ma vie en réalité je suis qu'un peureux. Je quitte un endroit, je quitte une école, je quitte un groupe de personnages, je quitte des gens qui ne me ressemblent pas, je quitte. Je suis un grand peureux. Ça s'appelle Sur Mera, c'est la Torah de l'exil. En exil, on est tout le temps en train de quitter quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux. Mais en Eretz Israël, on va vers Asetov. Ça, c'est le secret. Et là, on ne dit pas Sur Mera vers Asetov, puisque le rythme que Yaakov a choisi, c'est d'abord Asetov et Torkedeze Atata Sur Mera Sherose Vemenase Lechalot Otra. Bader. Bader? Ken. Ken. On peut, en réalité, elle se trouve aussi dans chacun. C'est important d'avoir cette peur-là. Parce qu'en réalité, cette peur, c'est une zéhiroute. Mais il ne faut pas que cette peur devienne paralysante. C'est pour ça qu'en réalité, en hébreu, la peur, pachad, devient dachas. C'est-à-dire une source d'énergie qui te pousse. Mais à pachad, t'as assez dachas. C'est-à-dire pousse. Et c'est comme ça qu'on utilise ses peurs pour devenir, pour en faire des qualités. Nous sommes dans la deuxième ligne. Azivat Eretz Israël, hitotza shel siluk ashrina. Quand on quitte Eretz Israël, quand Yaakov quitte Eretz Israël, c'est parce que la présence divine n'est plus. Autrement dit, il y a une perte de présence. C'est-à-dire il y a une perte de visibilité que Dieu est en train de diriger les choses. Quand quelqu'un ne voit plus que c'est Dieu qui dirige l'histoire, qu'est-ce qu'il devient ? Pessimiste. Il se dit, Dieu m'a quitté. Dieu nous a quittés. Dieu n'était pas là. Où est-ce que Dieu était dans la Shoah ? Où est-ce que... Tout ça. Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov est arrivé à un degré où la présence divine sur terre d'Israël n'était plus. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On est obligé d'aller chercher Dieu en exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, lui aussi, est tombé en exil avec les Neshamot d'Israël qui sont tombés. Donc quand je vais en exil en réalité, je ne récupère pas seulement des Neshamot de mes frères et de mes sœurs, et des étincelles qui appartiennent à mon essence. Je récupère des étincelles de Shrina. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand je vais en exil, le narratif de la Torah, qu'est-ce qu'il me dit? Vaifga bamakom, vayalen sham ki bahashemesh. Je vous parle de Yaakov. Je vous cite un verset de la paracha qu'on a lu hier. Yaakov, quand il est sorti, il est arrivé à l'endroit... Il était obligé de dormir. Pourquoi? Parce que le soleil s'est couché. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire? Le soleil qui se couche, c'est quoi? C'est la Shrina. On voit plus la lumière. Donc Yaakov est obligé maintenant de rentrer dans un grand sommeil. C'est l'exil. L'exil est un sommeil pour la nation d'Israël. Mais il y a quelque chose de positif dans ce sommeil. Le rêve. Il ne faut jamais arrêter de rêver quand on est en exil. C'est ce qui nous a maintenus et c'est grâce à ça qu'on est revenu et c'est grâce à ça qu'on est encore là. Et mieux que ça, même quand nous sommes là, ne t'arrête jamais de rêver. Pas seulement de rêver quand tu vas dormir, de rêver d'avoir des idéaux dans ta vie. Continuez de rêver, Moraï Verabotai, n'arrêtez pas. Quelqu'un qui ne rêve pas dans sa vie, c'est un mort. Il ne peut pas guérir. C'est pour ça que la maladie se guérit par le rêve. Achlama, chalom, c'est la même racine.
Je ne comprends pas qu'il n'y ait plus la Shrina en Eretz Israël, puisqu'il y avait quand même des
Israël. Il y a fait. Donc elle est découpée. c'est ce qu'on appelle les découpées. C'est-à-dire, elles tombent dans un degré de torpeur, de noir. Maintenant, si je veux continuer de garder le lien avec elles, maintenant je suis Yaakov, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Écoutez, c'est extraordinaire la Torah, extraordinaire. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire passer... Qu'est-ce que Yaakov, les sages dans la Gemara, ne trouvent qu'un seul truc à dire? Il a instauré Tfilat Arvit. Alors si tu es religieux, qu'est-ce que tu te dis? Si tu fais Arvit. Abraham il a fait Shacharit, Yitzhak il a fait Midra, Yaakov il a fait Arvit. Mais pas du tout. Arrête! Arrête de comprendre la Torah à ce niveau-là, c'est dommage, c'est en train de te gâcher. Si Yaakov a instauré la Tfilat Arvit, écoutez bien, c'est qu'il est en train d'instaurer un lien dans une période de noir. Extraordinaire. Je veux continuer de garder le lien avec Dieu, même dans une période où je ne vois plus rien. Donc je suis obligé de faire une Tfilat de Arvit. Ama Ariv Aravim, je ne vois plus rien. Et pourtant je garde le lien. Comprenez comment est étudiée la Torah. Ça c'est la Torah de Rav Kook. Extraordinaire. Je parle de ça aussi, j'ai dit tout à l'heure. Quand vous tombez dans des degrés, même ici, n'arrêtez jamais de rêver et instaurez un système pour garder le lien même dans votre période de dépression. N'arrêtez jamais. Parce que c'est le rêve qui nous ramène. C'est tout le inyan de revenir. Beshuv Hashem et Shivat Tzion, Hainu, Kecholmim. Azimalesrok Pinu. Maintenant je peux rire. Parce que je n'ai jamais arrêté de rêver. Je n'ai jamais quitté, je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais abdiqué. Ça veut bien le français, c'est... J'apprends au fur et à mesure. Hein. Moi, c'est pas ma langue natale. Hein. C'est-à-dire, moi je parle en hébreu, moi je suis israélien, de racine, de naissance, Beersheva. Bien, non. Alors, je vous fais vraiment un cadeau de parler en français. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Non, c'est juste pas pour recevoir un compliment, c'est juste pour vous dire que je fais des efforts.
C'est tellement riche en hébreu.
Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? On est bientôt à la fin, lâchez le texte. Que dit Yaakov quand il arrive à ces gens-là? Là-bas, à Haran. Achai, Me'aïn n'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères. Oh mon frère, d'où tu viens toi? Avec l'accent français d'aujourd'hui. C'est pas du tout ça. Il est en train de leur dire Achai. Vous savez ce que ça veut dire Ach en hébreu? Non. Les Echot en hébreu, c'est un verbe. Moi j'ai les Echot. Soudé. Frère égale soudure. C'est la racine. Ça veut dire... Vous savez ce qui vous manque? La Achdout. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne savez plus, mais Aïn Atem, que vous venez tous de Aïn, de Ensof. Il leur dit pas une question, il leur dit Achai, deux points, mais Aïn Atem. Vous venez tous du Ensof, vous avez oublié. Et la preuve, qu'est-ce qu'il lui répond? Mais Haran Anachnu. Pas du tout, nous on vient de Haran, arrête de nous raconter des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire Haran en hébreu? Haron Af, nous venons de la colère. Ça veut dire nous ne sommes pas du tout tes copains, on est des bandits, nous, on est des méchants. On en a marre, il n'y a rien de bien de son monde dans ce monde, donc il faut vite se battre pour vivre. Tu es obligé de voler, tu es obligé de tricher, c'est la jungle. Yaakov, il va avec son message à la noix de coco. Et eux, ils disent, mais pas du tout, mais tu es un rêveur, toi. T'es un rêveur, tu pourras jamais réussir. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Hayadatemet Lavan ben Nahor. Vous connaissez Lavan, fils de Nahor? Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov n'abandonne pas. Il va là-bas pour faire le tikkun du monde. Il leur dit, est-ce que vous avez entendu parler de la famille, la seule famille prophétesse de Abraham? Alors qu'est-ce qu'il dit? Yadam, on a entendu. Il dit, vous savez que cette famille, Hachalom lo, écoutez bien, c'est un dialogue magnifique. C'est pas, est-ce qu'il va bien? Comment tu vas, mon frère? Hachalom lo. Le shalom, la shlemout, ça vient de cette famille. Et ça peut durer des heures, ce dialogue. C'est pas comme ça, comme je suis en train de vous parler. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Shalom. Ah, Yaakov, il se dit, c'est-à-dire, je viens de donner 6 mois de cours, et ça commence à marcher. Ils disent shalom. Ils comprennent. Il y a de l'espoir. Les nations du monde commencent à comprendre que Israël est le messager de ce degré dans le monde. Et immédiatement, on change de caméra vers Rachel Ba'aminaton. Ça veut dire quoi? J'ai réussi maintenant à retrouver l'entité de ce monde. Je suis en train de réparer toute la brisure. Eh bien, ma future femme est en train d'apparaître déjà, c'est-à-dire la maison d'Israël. Rachel est en train d'apparaître. Et elle vient avec qui? Imatson, avec toutes les brebis, toutes les neshamot égarées, dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est le secret. Et en réalité, la machloket entre ces deux familles, entre cette même famille divisée en deux, c'est celle qui vit en exil et celle qui vit en Eretz Israël. C'est tout simplement, est-ce que nous sommes une religion ou bien est-ce que nous sommes une nation? C'est tout. C'est ça la grande discussion que nous avons avec nos frères qui ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, de moins en moins, Baruch HaShem. Mais en réalité, la machloket, c'était est-ce que nous sommes une religion? Et tant que tu te définis en tant que religion, tu peux rester n'importe où dans le monde. Dès que tu as compris que tu es une nation, tu ne peux plus supporter. Tu reviens sur ta terre. Ça, c'est le secret. Maintenant, quand Lavan veut empêcher Yaakov de venir, Akadosh Baruch Hu lui vient en rêve. Il lui dit, attention, lâche-le de revenir en Eretz Israël, de partir de là-bas. Attention Lavan, ne touche pas Yaakov. Pour nous, c'est quoi? C'est tout simplement une signature de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu est sioniste. Ça veut dire qu'il dit aux nations du monde, attention, laissez mes enfants rentrer à la maison. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu non seulement accepte, mais il devient associé au retour à Sion. Toda Rabba.